Je veux soutenir une thèse devant vous. Cette épidémie, elle n'est la faute de personne. Aucun des pays qui est frappé, même pas la Chine qui est à l'origine, aucun des pays qui est frappé n'est le responsable de ce qui nous est arrivé à tous ensemble. Et donc, l'action publique, l'argent que nous avons à dépenser pour contrecarrer ce drame et pour préparer la suite, cet argent-là, il ne peut pas être mis au compte de chaque société exactement comme on lui fait des prêts ou on l'endette dans des circonstances normales.
Quand vous dites ce qui va nous arriver, François Bayrou, pour bien comprendre, pardon, je vous interromps, c'est une crise sociale. Est-ce que vous craignez aussi une révolte sociale, un retour par exemple des gilets jaunes ou d'une nouvelle forme dans le contexte économique très grave que vous décrivez ?
Adrien Gindre, excusez-moi, mais il faut que je finisse le raisonnement précédent. Et puis je répondrai après, naturellement. Comme cette épidémie n'est la faute de personne, alors il faut que nous en partagions la charge. Il y a plusieurs moyens d'en partager la charge. On pourrait faire des emprunts en commun. Je pense notamment à l'Union européenne. On peut demander à la BCE d'être d'une certaine manière prêteur en dernier ressort. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'elle fait. On peut imaginer des prêts spéciaux à remboursement différé, prolongés dans le temps, qu'on ait quelques décennies. Après tout, on peut emprunter à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Je ne sais pas, c'est à nous d'en décider, pour qu'on puisse revenir à flot. Mais on ne peut pas demander que cette dette, la dette constituée pour faire face à cette épidémie, soit traitée exactement de la même manière que les dettes, allez, de confort que nous avons consenties trop souvent. C'est une circonstance exceptionnelle. Il faut un mécanisme exceptionnel pour aider financièrement les États et donc les sociétés qui ont à faire face à ce drame.
Et est-ce que vous craignez donc une crise sociale ? C'est la question que vous posez, Adrien Gindre.
Oui.
Et quelle forme pourrait-elle prendre ?
Je pense que le... D'abord, je souhaite qu'on l'évite, hein. Mais je pense que l'enchaînement crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise démocratique est un enchaînement dont l'histoire a montré qu'il était logique.
Ça veut dire quoi une crise démocratique ? Ça veut dire qu'il faudra bien voter plus tôt ? Est-ce qu'il faut faire un référendum ? Est-ce que toutes les questions sont sur la table dans ce cas-là s'il y a crise démocratique ?
Je ne connais pas la réponse parce que je ne connais pas les circonstances, mais je décris un enchaînement dont quiconque a ouvert un peu les yeux sur l'histoire connaît le caractère menaçant. Donc je vois cela avec précision. Pardon, j'ai une oreillette qui n'arrête pas de faire des siennes, comme vous le voyez. Oui, je pense qu'il y a un risque.
Raison. Il peut y avoir une victoire des populistes en 2022, par exemple, pour vous.
Je ne le souhaite pas et je ferai tout pour l'éviter. Mais revenons, vous le voyez bien, au nœud de la question. S'il y a ce risque, alors il faut qu'on s'y prépare. Ça veut dire qu'il faut une réflexion stratégique, partagée du pays, des grandes forces démocratiques, des grandes institutions, pour réfléchir à la manière dont on peut conjurer ce risque. Étant donné la dimension de la crise, ce risque est un risque immense. Et donc, face à ce risque immense, il faut qu'on se prépare. Ça veut dire un état d'esprit qui soit un état d'esprit non partisan, qui écarte la guerre entre formations politiques ou entre majorité et opposition, et qui essaie de réfléchir de la manière la plus désintéressée possible aux réponses qu'une société comme la nôtre peut apporter. Je n'ai pas dit qu'une majorité peut apporter, ni qu'un pouvoir peut apporter. Moi, je pense au pays et à la société tout entière.
C'est l'heure de questions nettes, hein. Alors Jean-Luc Mélenchon.
Le grand jury, question nette.
Pendant cette émission, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé, François Bayrou, et il dit, lui, qu'il n'enverrait pas son petit, ce sont ses mots, à l'école parce qu'il y a trop de dangers à le faire. Vous comprenez cette position aussi ?
Oui, je sais très bien que quelqu'un qui a une grande maison, un jardin, un grand appartement, la faculté de faire garder ses enfants, peut adopter une position comme celle-là, même si je ne la trouve pas totalement solidaire.
Parce qu'il estime que c'est pour permettre aux gens, c'est pour permettre aux Français de revenir au travail parce que la compétition continue entre des différentes économies. Il n'y voit qu'une raison économique.
Mais excusez-moi, les raisons économiques sont nobles. Les gens qui prétendent que l'économie c'est mal, c'est sale, qu'il ne faut pas s'en occuper, sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, vivent en réalité des ressources que la nation met à leur disposition. Mais demander à un artisan, à un commerçant, à un chef de petite entreprise, à un micro-entrepreneur, s'il considère que l'économie, c'est nul. Moi, je défends le fait que nous avons besoin d'une économie vivante et en bonne santé pour une société vivante et en bonne santé. Et donc, de ce point de vue-là, je ne partage pas cette espèce de mépris qui consiste à dire oui, on n'a pas besoin que les enfants soient à l'école, on peut s'en occuper tout seul dans la famille.
On vous a entendu sur ce point.
Je ne crois pas. Excusez-moi. Non. Je veux dire une chose. Quand vous vivez à 5 ou 6 dans un appartement de 75 mètres carrés dans un grand ensemble, je ne crois pas qu'il soit bon, juste et sain de dire « vous restez confinés et les enfants n'iront pas à l'école ». Je ne partage pas ce sentiment pour toutes les raisons, y compris les raisons sociales. Sociales et culturelles.
Vous les avez exprimées.
Parce qu'on a besoin des échanges, on a besoin de la langue.